Bonsoir Tara Schlegel.
Bonsoir, oui, bonsoir Hervé Gardette, vous êtes donc à Nantes. Bonsoir à tous.
France Culture.
Voilà, alors 200 000 manifestants en France, affirment les syndicats, contre la loi travail. Aujourd'hui, on va voir qu'en cette 11e journée, les opposants ne désarment pas. Écho donc de cette manifestation parisienne avec Anne-Laure Chouin et Violette Voldoir nous dira que la police a de nouveau sursécurisé le cortège. Dans cette édition, nous irons également à Bruxelles où les 28 sont réunis pour la première fois depuis le Brexit. Dîner important ce soir. En attendant, nous serons au Parlement européen où l'europhobe Nigel Farage, qui est partisan du Livre a plutôt été chahuté ce matin. Et puis nous irons également à Londres où devait se tenir une manifestation contre le Brexit, justement manifestation annulée en raison de son succès. À 18h20, ce sera du grain à moudre avec Hervé Gardette. L'Union européenne est prête à enclencher dès aujourd'hui le processus de séparation d'avec le Royaume-Uni. Voilà l'une des petites phrases prononcées à Bruxelles tout à l'heure par Donald Tusk, le patron du Conseil européen. Angela Merkel, la chancelière allemande, a rappelé, elle, ce matin devant le Bundestag, qu'il n'était pas question de négocier un Brexit à la carte. Le ton est donc donné pour le sommet européen d'aujourd'hui, auquel participe encore ce mardi David Cameron. Demain, il sera absent des débats. Le Premier ministre britannique vient s'exprimer sur le choix de ses concitoyens et il espère que le processus va se dérouler désormais de manière aussi constructive que possible. C'est ce qu'il a dit en arrivant à Bruxelles. Et en attendant la sortie des 28, on part pour le Parlement européen qui ouvrait aussi une session bien particulière ce matin, toujours à Bruxelles. C'est la première session post-Brexit à laquelle assistait notamment le député europhobe et patron du UKIP. Lakshmi Lotha était à cette séance du Parlement.
Des applaudissements, des huées, des invectives et des bons mots. Dans l'hémicycle, ce matin, les eurodéputés ont laissé éclater leur tristesse, leur impatience ou leur joie face au Brexit. Le président de la Commission européenne déclare « Les Britanniques restent nos amis », ce qui lui vaut les applaudissements ironiques de Nigel Farage, le leader de UKIP, réaction de Jean-Claude Juncker.
Je suis très surpris de vous voir ici. Vous vous battez pour le Brexit. Le peuple britannique a voté pour la sortie de votre pays. Que faites-vous encore là ?
Tandis que le président de la Commission est soutenu par des applaudissements nourris dans la salle, Nigel Farage est lui hué lorsqu'il commence à parler.
Quand je suis arrivé ici il y a 17 ans et que je vous ai dit que j'allais conduire une campagne pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne, vous avez tous bien ri. Eh bien, je crois que vous riez beaucoup moins maintenant, n'est-ce pas ?
Au sein de l'hémicycle, des voix s'élèvent « Go home, rentrez chez vous ». Et le leader de UKIP de conclure sur le ton de la prédiction, le Royaume-Uni ne sera pas le dernier pays à quitter l'Union. En Européen convaincu, Jean-Claude Juncker rétorque « Je resterai jusqu'à mon dernier souffle, me battre pour une Europe unie ».
Voilà donc pour ce reportage de Lakshmi Lotha à Bruxelles. Alors on l'a compris, le calendrier est dicté par le Royaume-Uni qui va prendre son temps avant de se mettre véritablement hors jeu. Outre-Manche, il semble d'après le site d'information Politico que Stephen Crabb brigue la succession de David Cameron à la tête du parti conservateur. Il est l'actuel ministre du Travail, il a pris position pour le Remain. Boris Johnson, le maire de Londres, qui lui était pour le Leave, sera également candidat. Et on apprend que probablement le successeur de Cameron sera nommé donc au poste de Premier ministre le 9 septembre seulement et non le 2 comme il s'était annoncé précédemment. Et puis on attendait le vote formel qui vient d'avoir lieu des députés du Labour Party de l'opposition britannique contre leur patron Jeremy Corbyn. Jeremy Corbyn a été désavoué, c'était attendu par les députés britanniques du Labour qui ont voté par 172 voix contre 40 à l'encontre du président du Parti travailliste. Voilà, je vérifie quand même les chiffres sur la dépêche de l'AFP. Voilà, la motion de défiance a bien été votée par 172 députés contre 40. Plusieurs rassemblements étaient prévus aussi au Royaume-Uni aujourd'hui, en fin de journée, pour protester contre les résultats du référendum britannique. Mais ces rassemblements, à Londres donc, ont été reportés. Sur place, Sandrine Etoa Andegue.
Plus de 50 000 personnes ont répondu à l'invitation sur Facebook « London stays, Londres reste ». La capitale anglaise a voté à 60% pour que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Ce grand rassemblement à Trafalgar Square a été annulé pour des raisons de sécurité. Les organisateurs qui avaient eu l'accord de la mairie de Londres expliquent que la place peut contenir 10 000 personnes, mais qu'au vu du succès annoncé, ils craignent des débordements. Ils invitent donc les manifestants à renoncer à s'y rendre. On note que le même groupe a annulé les les autres rassemblements prévus à Manchester, Cardiff, Oxford et Liverpool. Sauf qu'un autre groupe Facebook s'est immédiatement créé pour annoncer que le rassemblement de Londres était maintenu. Celui-là s'appelle London Still Stays, Londres reste quand même. Nous n'annulerons notre manifestation que si le Brexit est annulé, écrivent les organisateurs. Ils ajoutent que c'est un rassemblement pacifique, qu'il n'y aura pas de défilé, mais que c'est essentiel de se faire entendre cette fois-ci. Chacun est donc invité à ramener ses banderoles et ses drapeaux aux couleurs bleu et jaune de l'Union européenne.
Sandrine Etoy en deg à Londres et puis la première ministre d'Écosse sera demain à Bruxelles pour présenter au Parlement européen la position de sa nation qui a voté pour le maintien au sein de l'Union européenne. Elle sera donc en Belgique au moment même où le Britannique David Cameron n'assistera pas lui à la suite du sommet européen réservé maintenant au 27. Et puis en France, le Premier ministre est revenu sur une Europe ressentie comme punitive et dont doutent désormais les peuples. Manuel Valls a prononcé un discours d'une demi-heure pour ce débat sans vote devant les parlementaires français. Le chef du gouvernement a proposé de passer à une nouvelle étape de la construction européenne. Un peu moins de monde ce mardi dans les rues de Paris et dans l'ensemble de la France pour défiler contre la loi travail. 11e journée de protestation avec un cortège qui avait le droit de bouger cette fois-ci entre Bastille et Nation, mais toujours sous extrême surveillance. Bonsoir Anne-Laure Chouin.
Bonsoir Tara.
Les militants syndicaux et les grévistes ne désarment pas. Ils étaient environ 55 000, disent les organisateurs à Paris. 15 000, affirme la police. Et ce, à la veille d'un rendez-vous accordé par Matignon.
Du projet de loi 49.3 ou pas ?
Oui, en tête de cortège, Philippe Martinez est droit dans ses bottes. Il dit attendre les propositions du gouvernement. Lui n'a pas changé de position. Retrait de l'article 2.
Personne n'arrive à nous contredire sur le fait que l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire le fait que dans chaque entreprise, il y ait des accords en dessous de la loi et en dessous des conventions collectives, ne va pas générer du dumping social. Peut-être que demain, on dira oui, vous avez raison, et on change un certain nombre de choses. Ce matin, un sondage indiquait que notamment les salariés étaient opposés au passage en force à l'Assemblée nationale. Donc la volonté de démocratie, elle est affichée.
Et à la question, si la loi passe tout de même cet été, quelle suite sera donnée au mouvement ?
Nous, on est déterminés, 49.3 ou pas, il y a des lois qui sont passées et qui n'ont jamais été appliquées. Donc la mobilisation continue durant l'été sous d'autres formes et puis on verra à la rentrée.
Alors dans le cortège, en revanche, les manifestants aussi entre détermination et résignation, voire incompréhension pour Loïc sous la bannière Sud Culture.
Un sentiment de même pire que de l'amertume, d'absurdité quoi. J'ai pas le sentiment que ce soit des gens qui soient ouverts à la négociation, malgré la pression sociale, malgré la tension dans tous les emplois, que ce soit dans le privé, dans le public. On a toujours des petits chefs sur nos côtelettes, on a toujours des gens qui nous mettent la pression. Et j'ai pas l'impression qu'ils veulent pour l'instant en démordre. Et ce qui est très, encore une fois, absurde, c'est que ce soit de la part d'un gouvernement soi-disant socialiste.
Et des socialistes déçus, évidemment, le cortège en comptait un certain nombre. Noélie, par exemple.
Je ne voterai jamais plus de ma vie Parti socialiste. Ah, je les trouve très habiles. Là, par exemple, c'est là je ne sais combien de manifestations. Ils pourront se rengorger en disant on leur a laissé un parcours normal et ils sont très peu. Puis ça va passer tranquillement.
Enfin, du côté des jeunes, moins d'amertume et moins de résignation, mais plutôt de l'enthousiasme. Cécile.
Ce qui est super surprenant, je trouve, avec ce mouvement, c'est à quel point la détermination, elle a pas faibli, en fait, en 4 mois. Et Valls, il a beau nous envoyer les flics, les canons en haut, il a beau nous mettre le 49-3, il a beau tenter d'interdire les manifs, bah on est encore là, quoi.
Alors la question désormais, c'est que peut-il sortir de la rencontre de demain entre Manuel Valls et les syndicats, sachant qu'une nouvelle manifestation a été évoquée pour le 5 juillet prochain, jour de l'examen du texte à l'Assemblée nationale. Ce sera la 12e.
Merci beaucoup Anne-Laure Chouin. Et dès maintenant, une autre question sous-jacente, hein, est celle de la sécurité. Après cette 11e journée, aucun débordement. Mais il faut dire qu'à l'image de la semaine dernière, eh bien, les forces de l'ordre ont sécurisé fermement le cortège au point que le nouveau parti anticapitaliste parle d'une manifestation quasiment interdite. Vous aussi, vous y étiez, Violette Voldoir.
Oui, et comme la semaine dernière, les sacs à dos étaient déconseillés et il fallait se soumettre à 3 fouilles minimum avant de pouvoir rejoindre le défilé parisien. Alors, un manifestant s'est même insurgé contre cette cagifestation, hein, défilé dans une cage. Un sentiment partagé par Patrick, retraité, qui était, lui, au cortège qui est au départ de Bastille tout à l'heure.
Ça me gêne beaucoup d'être encadré par la police déjà au départ. J'ai jamais été fouillé dans une situation de manif de ma vie. C'est la première fois que je vois ça. Ça n'est que ni tête ces manifestations maintenant. On pourra dire, la fédéologie est passée par là. C'est propre maintenant. Et c'est pas une manif.
Alors lui dit qu'il ne viendra plus dans ces manifestations trop encadrées à son goût. Et quant à ceux qui ont refusé les règles et les contrôles d'identité fixés par la préfecture de police de Paris, eh bien ils n'ont tout simplement pas pu se rendre jusqu'au cortège. Entre 200 et 300 militants d'extrême gauche, mais pas seulement, hein. Il y avait aussi des participants à Nuit Debout, s'étaient rassemblés à la Bourse du Travail à Paris ce matin. Et dès la fin de matinée, les forces de l'ordre les ont encerclés pour prévenir un départ en manifestation sauvage, car la plupart de ces manifestants se reconnaissent dans le cortège de tests de tête qui abrite parfois des casseurs. Naïm était parmi eux et il n'est jamais parti défiler aujourd'hui.
On estimait que c'était inadmissible, d'une part, les conditions de manifestation, et d'autre part, que là, la stratégie qu'a adoptée la préfecture de police, c'est pas d'assurer la sécurité des biens et des personnes, mais plutôt de réussir définitivement à dissocier le cortège de tête du reste du cortège syndical, en fait. Et à mon avis, c'est tout l'enjeu pour eux. Ils isolent les éléments les plus déterminés du mouvement, et d'un autre côté, ils ont un cortège syndical, entre guillemets, à poil, c'est-à-dire justement absolument inoffensif, et aujourd'hui, voilà, un parcours ridicule dans des conditions inadmissibles. Donc, ils réussissent finalement à désamorcer ce qui faisait la vitalité du mouvement.
Et au total, 38 personnes ont été interpellées aujourd'hui, dont 27 l'ont été au point de filtrage avant les manifestations.
Merci beaucoup Violette Voldoir. Et puis les forces de l'ordre annoncent environ 64 000 manifestants dans toute la France. Je donnais tout à l'heure le chiffre des syndicats qui tourne plutôt autour de 200 000. C'est un prétexte, disent ses détracteurs. Patrick Balkany renonce à se présenter aux prochaines législatives en raison de la loi sur le cumul des mandats. Pourtant son mentor Nicolas Sarkozy avait prévu de supprimer cette obligation s'il revient au pouvoir en 2017. Il faut dire que l'investiture du député maire de Levallois-Perret a fait des vagues il y a 5 jours. Élu pour la première fois en 1983 dans cette commune du 92, Patrick Balkany a été mis 4 fois en examen ces derniers temps pour fraude fiscale, blanchiment et corruption passive notamment. C'est son ancien attaché parlementaire qui devrait se présenter aux prochaines législatives à Levallois-Perret. Revenons maintenant sur l'affaire Tarnac et sur le désaveu du parquet. Il n'y aura pas de procès pour terrorisme contre Julien Coupa et Yildune Lévy. Les deux jeunes gens et 6 autres membres du groupe de Tarnac seront bien jugés, mais uniquement pour sabotage d'une ligne TGV. Sarah Guiboudot.
Julien Coupa et son ancienne compagne Yildune Lévy devraient être jugés l'année prochaine pour la dégradation de la ligne TGV à Duisy en Seine-et-Marne. 6 de leurs amis comparaîtront soit pour association de malfaiteurs, soit pour faux ou refus de prélèvement d'ADN, mais sans la qualification terroriste. Le ministère public est désavoué et Mathieu Burnel, l'un des mis en cause, un peu frustré de ne pas pouvoir en faire le procès de l'antiterrorisme.
Finalement, peut-être par peur du ridicule, l'accusation de terrorisme est abandonnée, mais ça leur permet en fait de s'assurer d'un procès plus petit où en fait on ne sera pas en mesure de mettre à jour les graves errements de la police antiterroriste qui sont à la base de ce dossier. Le simple soupçon de l'écriture du livre L'insurrection qui vient était suffisant à nous qualifier d'entreprise terroriste. Et quand on sait qu'aujourd'hui, les milliers de jeunes qui sont dans les cortèges de tête et qui, de fait, font un petit peu peur au gouvernement et s'amusent énormément dans la rue, tous ont ce livre-là comme référence.
La Cour d'appel de Paris confirme aussi le non-lieu rendu pour Julien Coupa et une autre femme pour un autre sabotage en Meurthe-et-Moselle, ce que le parquet considérait comme un coup d'essai. Les mises en examen ont toujours nié toute responsabilité dans les différentes dégradations qui avaient entraîné de nombreux retards de train le 8 novembre 2008.
Sarah Guiboudot. 48 000 étrangers sans papiers ont été placés en rétention administrative en France en 2015. C'est un peu moins que l'année précédente, mais c'est un chiffre qui alarme encore les associations qui sont habilitées à rencontrer ces personnes dans ces centres de rétention. Bonsoir Marie-Pierre Véraud.
Bonsoir Tara.
Les 6 associations en question dénoncent notamment l'usage qui est fait de la rétention pour désengorger des camps dans lesquels s'entassent les migrants.
Et oui, ce fut le cas. Nous en étions fait l'écho à Calais. Plus de 1 000 étrangers de la jungle de Calais se sont retrouvés dispersés, enfermés dans les différents centres de rétention en France l'an dernier. Des étrangers pour la plupart inexpulsables, syriens, irakiens, érythréens ou encore afghans. 95% d'entre eux ont d'ailleurs été libérés. Il s'agissait donc avant tout de désengorger la jungle pour les associations qui dénoncent le détournement d'une pratique dont elles rappellent le caractère traumatisant. Et particulièrement pour les enfants, 2 fois plus de familles et d'enfants ont été placés en rétention administrative en métropole l'an dernier, malgré les promesses de François Hollande de mettre fin fin à la rétention d'enfants, s'y ajoutent 280 mineurs isolés, abusifs, voire illégaux. Cet enfermement serait aussi peu utile. Il est censé être la dernière étape avant l'expulsion. Or, le taux d'expulsion a concerné moins de la moitié des personnes enfermées et pour moitié, les étrangers ont été renvoyés vers un pays membre de l'Union européenne dont il est très facile de revenir. Les associations accusent donc le ministère de vouloir uniquement faire du chiffre.
Et puis Marie-Pierre Véraud, le rapport pointe également la situation à Mayotte.
Oui, le 101e département français où, nous dit le rapport, se concentre à la fois le plus grand nombre de personnes éloignées et les atteintes aux droits les plus manifestes. Une situation dramatique pour les enfants, encore une fois, notamment. Ils ont été 4378 enfermés dans les centres de Mayotte l'an dernier avec des pratiques abusives, les mineurs isolés étant, pour permettre leur expulsion, rattachés illégalement à un adulte avec lequel ils n'ont pas de lien de parenté, ce qui leur fait courir de graves risques. Les éloignements y sont en outre réalisés en quelques heures avec un régime juridique dérogatoire, ce qui empêche tout contrôle effectif des juges.
Merci Marie-Pierre Véraud. Arrêtons-nous maintenant sur deux cas dénoncés par la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, qui se sont, ces deux cas, produits dans le Gers. Il s'agit de deux élèves, deux lycéennes qui n'ont pas trouvé de place dans leurs établissements pour la rentrée prochaine. Bonsoir Hélène Masquelier.
Bonsoir Tara.
Il se trouve que ces deux jeunes filles sont sans papiers.
Oui, Leïla est de nationalité burkinabé. Arrivée en septembre 2015 en France, elle intègre un lycée dans le Gers et fait une demande de régularisation qui sera finalement rejetée. C'est alors qu'en janvier, elle reçoit de la part de la préfecture une obligation de quitter le territoire français. Un peu plus loin, dans un autre lycée du département, Maggie, 20 ans, se trouve dans la même situation. De nationalité albanaise, elle arrive en France en 2013 pour fuir les persécutions dont sa famille est victime. Au début du mois, elle aussi est sommée de quitter le territoire et quand elle veut se réinscrire en terminale comme ses résultats le lui permettent, elle essuie également un refus de l'établissement. L'école pourtant est censée être ouverte à tous les élèves. Agnès Méric, membre du réseau Éducation sans frontières du Gers, dénonce l'illégalité de la procédure.
Le code de l'éducation prévoit que lorsqu'un élève a entamé un cursus, un cycle de formation dans un établissement, il a le droit de le poursuivre. Il n'y a que des raisons disciplinaires ou des problèmes de choix d'option qui pourraient l'en empêcher. Et il y a une circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui date de 2002 qui affirme très clairement que ces principes posés dans le code de l'éducation sont applicables à tous les élèves, y compris aux élèves étrangers. Et que, par ailleurs, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas compétence pour vérifier la régularité du séjour des élèves étrangers. Ce n'est pas sa compétence.
De son côté, la direction des services académiques de l'éducation nationale, à l'origine de cette interdiction, affirme que si en septembre les lycéennes ont régularisé leur situation, elles pourront effectivement s'inscrire dans leur lycée à la rentrée. Reste donc à attendre une décision de la préfecture.
Merci Hélène Masquelier. La diplomatie turque est décidément très active. Ankara a annoncé hier sa réconciliation avec Israël. Le même jour, le président Erdogan écrivait à Vladimir Poutine pour présenter ses regrets après qu'un avion russe a été abattu en novembre dernier par un chasseur turc. Voilà donc deux mains tendues en même temps par Ankara. Que signifie cette concomitance? Jean-Marc Coux dirige le Master Méditerranée et Moyen-Orient à Sciences Po Grenoble.
Ce n'est pas tout à fait par hasard. La Turquie, au Moyen-Orient et plus généralement dans cette région, se retrouve assez isolée. Cette politique des coups de menton qui a fait les succès diplomatiques de la Turquie, qui a fait revenir la Turquie sur la scène internationale, ben je dirais que depuis les printemps arabes, les coups de menton d'Erdogan, au contraire, ils ont causé des déboires, bien évidemment, à la Turquie sur la scène internationale. Ce qui a aggravé les dissensions entre Israël et la Turquie, c'est souvent des propos qui étaient très excessifs et qui donc expliquent la lenteur. Puisque la restauration des relations entre la Turquie et Israël, on en parle depuis 2013, on peut rapprocher aussi cette évolution régionale de l'appréciation que la Turquie a faite du Brexit. Là encore, ce qui est frappant, c'est que deux jours avant le Brexit, Recep Tayyip Erdogan avait parlé d'une sorte de Turkcite en disant « moi je vais faire mon référendum comme les Anglais pour montrer à l'Europe que je n'accepte pas la manière qu'ils utilisent pour nous parler ». Eh bien, à l'issue du Brexit auquel Recep Tayyip Erdogan ne s'attendait pas, la position a été très modérée vis-à-vis de l'Europe parce que le fait que les Occidentaux vont être plus polarisés par des dissensions intérieures comme le Brexit plutôt que par ce qui se passe au Moyen-Orient inquiète inquiète indiscutablement les Turcs. Et je crois que calmer le jeu au niveau régional, retrouver des points d'appui au Moyen-Orient, c'est effectivement un souci des diplomates turcs, un souci de la politique étrangère turque.
Jean Marcoux avec Ludovic Piétenu. Et puis on termine en Iran où 11 rebelles kurdes ont été tués lors d'affrontements près de la frontière avec le Kurdistan irakien, Siavoj Ghazi.
C'est le troisième accrochage entre des rebelles kurdes et les militaires iraniens dans cette région à majorité kurde, frontalière avec le Kurdistan irakien. Au total, quelques 33 rebelles et 6 militaires iraniens ont été tués au cours des deux dernières semaines. Selon les autorités iraniennes, le combattant kurde s'infiltre en Iran depuis le Kurdistan irakien. D'ailleurs, le chef de l'armée de terre des gardiens de la révolution, l'armée d'élite du régime islamique, a menacé d'intervenir dans le nord de l'Irak si les infiltrations continuaient. Les Kurdes iraniens forment moins de 10% de la population. Plusieurs partis et mouvements kurdes, notamment le Parti démocrate du Kurdistan ou encore le PEJAK, mènent la lutte armée contre le pouvoir iranien. Certains réclament l'autonomie, alors que d'autres veulent l'indépendance du Kurdistan irakien. La région était plus de calme ces dernières années. En effet, en 2011, après des accrochages similaires, les troupes iraniennes avaient mené une attaque de grande envergure au Kurdistan irakien. À l'époque, les mouvements kurdes iraniens avaient accepté d'éloigner leurs bases situées au Kurdistan irakien des régions frontalières avec l'Iran. Ces nouveaux accrochages interviennent alors que Téhéran accuse certains pays arabes de la région de financer les rebelles kurdes pour qu'ils mènent des opérations contre Téhéran.
Siavoj Ghazi, donc à Téhéran. En France, le temps sera nuageux au nord demain, plus lumineux au sud. À 22h, ce sera Stanislas Vazak pour les informations.